peut être accompagnateur et comment se former? Voilà une grande question. Pour tenter d'y répondre dans mon livre, je me suis référée à la grande tradition patristique, à l'expérience des pères du désert et des pères de l'Église et à leur analyse. J'aime beaucoup la patristique. Je me suis référée à la vie des grands accompagnateurs. En un mot, j'ai puisé dans l'héritage millénaire de l'Église. J'ai plongé dans la croissance spirituelle à partir d'un héritage d'Église solide et puissant. Nous avons un héritage extraordinaire que nous n'avons pas toujours su peut-être maintenir, mais je crois que ça y est là, ça démarre là. Tout est fait pour que ça recommence. Donc pour accompagner, il faut être en mesure d'envisager l'homme dans sa totalité. L'accompagnateur doit intégrer la dimension psychologique. On est un tout, on n'est pas des purs esprits, on est incarné, ne l'oublions pas. Donc il est indispensable, on ne peut pas recouvrir certaines choses. Il est indispensable pour tout accompagnateur de bien se situer lui-même sur le plan psychique et d'avoir su repérer en soi les mécaniques psychologiques qu'il habite afin de s'en dégager par un travail approprié, faute de quoi il commettra de graves erreurs. Sa bonne santé spirituelle doit être vérifiée en accompagnement. Une bonne connaissance des passions ou mouvements intérieurs de l'âme, appelés par les pères maladies spirituelles, est indispensable afin de poursuivre un travail personnel en faisant usage des outils spirituels que Dieu a déposés en l'homme. C'est une chose que je décris dans mon deuxième livre sur les mouvements intérieurs de l'âme, qui est un livre qui donne les remèdes spirituels, qui aident à poser certains remèdes. Donc il doit avoir une bonne appréciation des problèmes humains et une connaissance solide des rouages de l'âme. Il faut s'être frotté à l'humain pour accompagner. Il faut connaître l'homme. Il faut être un homme ou une femme de terrain. Il faut connaître l'homme. L'expérience personnelle, puisée au cœur du monde et de la réalité humaine, et éprouvée sous le regard du Seigneur, est donc importante. C'est-à-dire que nous avons à être éclairés par notre propre chemin de guérison. Connaître la route pour l'avoir parcourue et savoir quels en sont les pièges, c'est capital. Il faut s'être frotté à tout cela. Il faut avoir expérimenté tout cela. L'accompagnement spirituel demande du courage. Or, il n'y a pas de vrai courage sans conscience de ses propres faiblesses et de ses propres forces. Il est fondamental aussi de considérer dans l'accompagnement la dimension de paternité et de maternité spirituelle. C'est une chose que je développe dans mon livre. Un père ou une mère spirituelle devine les êtres d'une manière toute maternelle et s'opère alors une lecture du cœur. L'accompagnateur, l'accompagnatrice, quand il reçoit cette grâce, c'est aller au cœur. Ce n'est pas fouiller dans le cœur, c'est aller au cœur pour mieux prendre l'autre dans les bras, pour mieux l'aider à cheminer et à avancer. C'est-à-dire que lorsqu'un tel être se trouve devant un ami, une personne qui l'accompagne ou toute autre personne, il est ouvert à la fois à cette personne et à Dieu. C'est très important d'accueillir cette personne dans sa totalité sous le regard du Seigneur, sous le regard de Dieu. Et de cette profondeur de cœur, de cette profondeur du regard, viennent les mots qu'il doit dire. Ces mots sont des mots qui jaillissent. Et la personne constate que cette parole a du sens et la concerne directement et profondément. Donc, il n'y a pas besoin d'intervention brutale, jamais de jugement, ni de condamnation, ni d'ordre donné. Écoutons les mots employés par les apôtres. Que disent-ils ? Mes petits-enfants, mes bien-aimés. En fait, nous avons tous besoin d'entrailles de miséricorde. L'accompagnateur doit être entrailles de miséricorde. L'accompagnement n'est pas une affaire de théoricien. Il faut appartenir à Dieu. L'accompagnateur doit être pétri par la parole et se laisser conduire par l'Esprit. Mon Dieu, que c'est exigeant. Mais ce sont les personnes que nous accompagnons qui nous enseignent et qui nous font avancer dans ce sens-là. Alors, comment se former à l'accompagnement spirituel ? Vous l'avez vu, il y a des formations, bien sûr, et elles sont plus que jamais nécessaires. Donc, mais on le sait, les formations, les bonnes volontés, le zèle et les connaissances livresques ne suffisent pas. Parce que si cela était, et si c'était aussi simple, nous ne manquerions pas d'accompagnateurs. Nous en manquons. D'autres conditions doivent s'y ajouter. Peut-être ce qui nous manque le plus, en premier lieu, c'est la simplicité si concrète de l'Évangile. Il faut m'enduquer la parole en permanence. Elle nous protège de la tentation de nourrir un certain sentiment de supériorité par rapport aux autres, à tous les autres. L'accompagnateur est un petit. Il doit rester petit, simple serviteur, et il doit m'enduquer la parole en permanence. Il doit se savoir réellement et expérimentalement sauvé et être dans la joie d'être sauvé. Dès lors, regardez, il doit pouvoir regarder avec tendresse sans se départir de la miséricorde. Si je sais me regarder, si je me sais sauver, si je me sais aimer, si j'ai su faire ce travail sur moi-même, à ce moment-là, je peux regarder avec tendresse et avec miséricorde. C'est très exigeant. Il doit y avoir cohérence entre la parole, l'intention et le comportement. L'essentiel n'est pas de transmettre des mots, un message, voire un enseignement, ce n'est pas un enseignement, mais une expérience de vie et de vie en Christ. Être témoin, avec ses forces et ses faiblesses, mais être témoin. Donc, il y a deux grandes questions que je développe dans mon livre, là je n'ai pas, ce serait trop long, je ne peux pas en parler. C'est le transfert et la gratuité. Donc le transfert est toujours possible dans l'accompagnement, mais je ne vais pas développer ça, mais je l'ai dit, nous sommes trois. Donc quand il se produit, ça se traite. La notion de gratuité, d'hospitalité, de don de soi du serviteur qu'est l'accompagnement, l'accompagnateur est un sujet délicat. Parce que vous savez, nous le savons tous, tout ce qui est gratuit, ça ne vaut rien. On le sait. Donc, moi je dis, ah bon, mais c'est formidable ça, mais je comprends pourquoi le Christ ne fait pas l'unanimité. Tout était gratuit. Bon. Donc, la gratuité ne rend pas redevable. L'amour du Christ est gratuit. Il ne nous rend pas redevables. Bien au contraire, par cette gratuité, il nous montre la voie de la liberté réciproque dans le don et la joie de recevoir. Savoir donner et savoir recevoir. Ça paraît simple. On aime bien donner. Mais recevoir, c'est... Hein ? Très intéressant, ça. Comment accueillir ce don de Dieu ? Tout simplement en commençant par le recevoir. La dette est honorée si le don est pleinement reçu. C'est l'action de grâce. Le trésor de l'accompagnateur est donc dans la sagesse et l'esprit de gratuité. La rencontre avec la parole n'est qu'un don qui nous a été fait pour que nous le transmettions gratuitement aux autres, tout comme nous l'avons reçu. Dont l'accompagnateur doit se reconnaître comme un humble messager qui ne se proclame pas lui-même, mais qui parle des choses qui viennent de Dieu. C'est capital, ça. Tout ce qui est posé en entretien d'accompagnement l'est pour une relecture sous le regard du Seigneur. L'accompagné n'a donc pas à payer une consultation, mais dans un acte d'abandon et de fidélité au Seigneur, il a à collaborer à la grâce et au traitement offert pour sa guérison intérieure. C'est le prix à payer. Le salaire de l'accompagnateur, c'est quand il peut s'émerveiller de la transformation que le Seigneur opère en ses créatures. C'est sa plus grande joie. Ce n'est donc pas en payant notre accompagnateur que nous serons quittes, car le seul donateur, le seul maître, c'est le Christ. Pour le Christ, l'acte de gratuité est un acte pur de toute condition et de toute attente. On arrive à la fin. Alors, pour conclure, l'accompagnement aujourd'hui.